IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Défis et opportunités dans le secteur agricole et innovation dans les technologies propres, des enjeux cruciaux pour l'un et l'autre. C'est l'économie en direct et aujourd'hui, mardi 11 mars, découvrons plusieurs facettes de ces deux secteurs et comment ils peuvent peut-être se compléter et s'enrichir mutuellement. Pour en parler, deux invités, dont un que je retrouve tout de suite au téléphone. Bonjour Paul Dubray.
Oui, bonjour Jacqueline, bonjour à tous. Merci de votre accueil téléphonique.
Je vous en prie. Alors Paul, vous êtes agriculteur céréalier, adjoint à la mairie de Boissy-l'Aillerie, en charge de la voirie et des appels d'offres, et conseiller départemental en charge de la ruralité et des relations avec le monde agricole. Merci donc d'avoir accepté ce rendez-vous malgré votre agenda très chargé. Avec nous ce matin, plusieurs sujets d'actualité dans votre domaine et sur lesquels nous allons revenir en détail. Et bien présente dans le studio, à mes côtés, Célia Agostini, directrice de CleanTech. Bonjour Célia.
Bonjour Jacqueline, merci pour votre invitation.
Je vous en prie, merci à vous et ravie de vous accueillir de nouveau dans nos studios. Célia, vous êtes très investie dans l'impact environnemental et vous nous présenterez CleanTech, sa vision, ses objectifs face aux efforts incontournables dans le développement de solutions durables. Merci à tous les deux d'être les invités en direct de l'économie en direct.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Alors Paul, pour rappel, je voudrais juste dire que le Val d'Oise, c'est le premier département arboricole d'Île-de-France, avec une superficie d'environ 400 hectares sur les 823 que compte la région. Le département agit aux côtés du monde agricole pour préserver la biodiversité, valoriser notre territoire et la production locale et sensibiliser les habitants aux enjeux de l'agriculture de demain. Et vous, Paul, vous êtes vraiment le conseiller départemental idéal, je trouve, pour cette pour ce secteur. Et vous avez inauguré très récemment l'école des chefs à Bessancourt, et c'est aussi pour ça que je vous interviewe ce matin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Une très très belle école qui est une première en France, où on a décidé de former les chefs des collèges du département à faire une vraie cuisine et avec les produits locaux, parce qu'en fait l'avantage de cette cuisine nous permet d'aller voir les producteurs du Val d'Oise, de prendre des échantillons et de voir comment on peut cuisiner avec leurs produits, ce qu'on peut faire, quelles recettes on peut établir. Et on a essayé donc le jour de l'inauguration les pâtes du Vexin à Asville.
Oui.
C'est un agriculteur qui est à Asville, c'est Widi Joli Village, qui a décidé de produire des pâtes avec son blé. Et du coup, on a essayé de faire un risotto de pâtes aux champignons, qui était juste un délice. Ah. Donc ça nous permet de tester des recettes. Je rêve d'être collégien, puisque pour y avoir goûté, c'était très très bon.
C'était très bon.
Et en fait, le but, c'est vraiment d'accentuer ces circuits courts, de trouver comment cuisiner les produits locaux, de pouvoir mettre en avant nos producteurs. Et c'est une très bonne idée. Et même pour les cuisiniers des collèges, on sent une passion, parce qu'il va y avoir des formations, de retrouver leur vrai métier de base. De ne pas se servir que du four ou du micro-ondes.
Bien sûr.
Et donc c'est très intéressant pour eux.
Oui, et puis ça va donner aussi peut-être aux collégiens le goût de cuisiner également.
Exactement. Même moi qui ne cuisine jamais, je me suis retrouvé à faire un risotto. Donc
comme quoi
tout arrive.
Bon, alors, et il était bon?
Il a été très très bon. Bah, je suis peut-être pas très positif, mais c'était très très bon.
Bon. Alors moi je me posais la question, cette école des chefs là, est-ce qu'elle est elle est pas aussi un petit peu en écho avec le projet Agoralim qui va se développer dans quelques années maintenant?
Alors, c'est deux projets différents, mais qui peuvent se rejoindre d'ici quelques années, puisque vous savez que le projet Agoralim a prévu un carreau spécifique les produits locaux, pour les prendre directement après le champ et pour faciliter la vie du producteur, qui a l'habitude de produire, mais pas forcément l'habitude de s'occuper de la conservation ou de la commercialisation.
Oui.
Donc, dans quelques années, sûrement, j'espère qu'on arrivera à profiter de ce beau projet qui est Agoralim dans le Val d'Oise, qui va redorer un peu le blason de notre département et qui va faire une belle activité. Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, on le fait avec des petits marchés entre guillemets, mais j'espère que ces projets-là vont donner envie aux agriculteurs de se diversifier et de faire des produits locaux.
Très bien. Alors, le gros événement qui vient d'avoir lieu aussi, c'était le Salon de l'agriculture, où vous étiez présent, bien sûr, Paul.
Alors oui, très 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 beau, très très bel événement. On a battu le record cette année avec quasiment 700 000 entrées.
D'accord.
Beaucoup beaucoup de monde, beaucoup de familles, beaucoup de sourires et de personnes qui ont envie de redécouvrir ce qu'on produit en France. Et c'est très agréable pour les producteurs. Moi j'y ai passé la semaine, c'est très éprouvant.
Oui.
Mais c'est tellement agréable de voir un peu tous ces produits, de retrouver notre terroir français et de voir que les gens n'ont pas perdu cette notion du terroir français et ce côté épicurien.
Oui, oui, oui. Et puis je pense l'occasion de découvrir certainement de nombreuses animations. Et puis de redécouvrir des spécialités locales avec des producteurs locaux qui sont ravis d'être à ce salon.
Exactement. En fait, on prend un stand depuis pas mal d'années maintenant que l'on met à disposition de nos producteurs. Donc, on a 4 producteurs qui sont là tous les jours sur une rotation de 3 jours.
Oui.
Donc, chacun est libre de pouvoir venir et de présenter ses produits au grand public. Et on sent vraiment un bel élan. Tous ceux que j'ai vus étaient ravis d'être là parce que ça permet d'être vraiment en direct, que le producteur puisse expliquer en direct ce qu'il fait, comment il le fait et le faire goûter. Donc, c'est assez passionnant et ça permet de casser un peu cet agribashing qu'on avait depuis quelques années. Et de redorer le blason de l'agriculture française.
Oui, oui. Donc une vraie promotion des produits locaux et une vraie sensibilisation du public aux enjeux agricoles.
Exactement. Le public avait un petit peu peur de l'ambiance du salon.
Oui.
On a décidé de garder une ambiance saine puisque ceux qui viennent, c'est ceux qui sont passionnés par notre métier et qui ont envie de nous découvrir. Donc une très très belle ambiance vraiment et des personnes qui posent beaucoup de questions, mais beaucoup de questions ciblées et intéressantes. Donc on sent que avant de venir, ils s'étaient renseignés.
Ils sont pas venus par hasard
comme salon. Ils venaient pas par hasard, ils avaient vraiment envie de retrouver ce terroir français.
Paul, l'année 2024 a été compliquée quand même pour les agriculteurs, peut-être même début 2025 aussi. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés et vont être confrontés les agriculteurs français?
En fait, les très très mauvaises années 2024, moi je suis installé depuis 2008, je n'avais jamais connu une année aussi catastrophique, beaucoup de pluie comme tout le monde a pu le voir, on a un début d'année 2025 qui ressemble beaucoup. Ce qu'on aimerait, c'est le temps ne se gère pas. On essaye d'adapter nos cultures en fonction du climat, mais qui est quand même très changeant. Donc c'est pas évident puisque c'est un an.
Bien sûr.
Un an à l'avance, on peut pas forcément savoir le climat. Mais ce qu'on aimerait, c'est surtout que on nous laisse produire des produits français. Faut pas oublier que la production française est la plus propre au monde. Ça a été prouvé à plusieurs reprises et qu'on aimerait que les Français puissent consommer notre production au lieu de faire venir les productions de l'étranger qui n'ont pas le même cahier des charges.
Bien sûr.
Et ce qui nous plombe le marché, c'est de faire venir des produits d'autres pays qui ne respectent pas nos cahiers des charges et sont beaucoup moins propres que nous.
Oui. Alors, écoutez, la transition est faite avec Célia Agostini qui est près de moi. Je sais que le département est aussi très au rendez-vous pour soutenir les exploitants agricoles, justement lors d'événements climatiques exceptionnels.
Oui. Et, on a débloqué une subvention de 40 000 euros par rapport aux intempéries du printemps 2024.
D'accord.
Qui ont concerné 23 agriculteurs qui avaient leurs semences qui s'étaient retrouvées sur la route. Donc, on a réussi à débloquer une subvention exceptionnelle.
Ouais, bon, bah, bravo, bravo. Alors, j'aimerais qu'on aborde le sujet de ce que l'agriculture, pourrait apporter à la transition énergétique et à la décarbonation. Célia, est-ce que vous pensez que les agriculteurs pourraient avoir un cahier des charges qui permette de répondre favorablement à la transition énergétique et la décarbonation?
Moi, je pense que les agriculteurs, ils sont au centre en fait de deux grands enjeux qui sont à la fois la souveraineté alimentaire. Et la France, sur ce plan, occupe quand même une place majeure en Europe, puisqu'on est quand même un peu, avec la Pologne, le grenier européen au niveau des céréales et de beaucoup de denrées alimentaires. Et le deuxième enjeu aussi, dans lequel ils sont au centre, c'est la souveraineté aussi énergétique.
Oui, oui.
L'enjeu aujourd'hui, c'est de pas opposer l'une et l'autre, parce que il faut préserver les terres agricoles et donc on peut pas installer par exemple du panneau photovoltaïque partout sur les terres agricoles parce que là on irait empêcher la souveraineté alimentaire, mais en même temps ces terres peuvent servir aussi à faire un développement, on va dire, raisonné des énergies décarbonées. Je pense notamment à l'agri-photovoltaïsme, je pense notamment aux méthaniseurs. Et en plus, les méthaniseurs, ça permettrait de s'inscrire dans une certaine circularité et de contribuer justement à augmenter la production de nos énergies décarbonées. Donc je pense que voilà, les agriculteurs aujourd'hui, ils sont au centre de ces enjeux. Le tout aussi, alors quand on commence à parler d'agri-PV, parce qu'il y a parfois beaucoup de conflits entre dire que finalement produire de l'énergie sur ces terres, ça serait beaucoup plus rentable pour un agriculteur. L'objet, c'est qu'ils restent quand même agriculteurs de base, qui est quand même leur cœur de métier. Mais en même temps, il faut aussi que leur métier de base leur permette de vivre dignement et décemment. Et là, on revient à tout l'enjeu social qui est dans le débat, qui est quel revenu on est capable de aussi de donner aux agriculteurs qui sont évidemment très investis dans leurs exploitations et qui ne comptent pas leurs heures.
Oui, de pouvoir déployer un bénéfice. Qu'est-ce que vous dites de ça, Paul, de
cette je suis entièrement d'accord. Le but de l'agriculture, c'est vraiment de conserver les terres existantes, et c'est pour ça que sur tout ce qui est panneaux photovoltaïques au sol, la Chambre d'agriculture a mis une espèce de cahier des charges en expliquant qu'il fallait que ça soit une parcelle qui n'est pas cultivée depuis plus de 10 ans. Pour qu'on puisse le faire dessus. Je pense que c'est des sujets intéressants. Moi, je vois ça comme de la diversification sur ces parcelles-là.
C'est ça.
Qui sont soit trop faibles pour faire quoi que ce soit, ou soit très mal placées sur les zones périurbaines où les accès en tracteur deviennent difficiles et qui, du coup, ne sont plus cultivées depuis plus de 10 ans. Je pense que c'est assez intéressant. Pour tout ce qui est méthanisation, c'est très, très compliqué dans le Val d'Oise. Il faut pas oublier qu'une grosse partie du Val d'Oise est en site classé. Ce qui nous arrange pas pour les projets de méthanisation. Il y en avait 4 dans le Val d'Oise il y a encore 5 ans, et là il en reste plus qu'un de projet qui, à mon avis, n'ira peut-être pas au bout.
Ah oui.
Donc on a cette problématique de sites classés, de sensibilisation au grand public, parce que vous savez comme moi, c'est comme les prisons, on en veut tous, mais pas chez nous.
Oui.
Donc on se retrouve dans un système qui est assez complexe. La méthanisation pour moi est très intéressante, et surtout dans les biodéchets.
Oui.
Parce que il est très intéressant de pouvoir trouver ce système d'alimentaire, au lieu de jeter, de pouvoir se servir de ces biodéchets en faisant un mélange. Ça peut être avec du fumier équin, ça peut être avec des cultures intermédiaires, mais de trouver ce système pour éviter ce gâchis et de pouvoir retransformer ce gâchis en énergie.
Oui, c'est-à-dire que les agriculteurs peuvent vraiment jouer un rôle clé dans la sensibilisation du public aux pratiques durables.
Exactement.
Je suis totalement d'accord.
Et ce qui ressort d'un méthaniseur, ce qu'on appelle le digesta, est un engrais qu'on remet en plaine, donc un engrais forcément naturel, et du coup beaucoup plus accepté par la population.
Oui, Célia.
Je suis totalement d'accord avec Paul. Il y a des vrais enjeux d'acceptabilité sociale aussi à recevoir ces énergies décarbonées. L'enjeu, je pense, c'est d'avoir aussi de créer les conditions d'un dialogue où on explique à chacun et à la population quels sont les avantages de chacune des énergies décarbonées et aussi bien quand dans décarboner, je mets tout, hein, je mets les énergies renouvelables, oui, je mets oui, le nucléaire, mais parce que en fait toutes les énergies décarbonées, elles ont des avantages et des inconvénients. Ça n'existe pas l'énergie décarbonée parfaite. De même que le gaz ou le pétrole parfait, ça n'existe pas, et d'autant plus lorsqu'on est aussi exposé aux importations internationales et aux tensions géopolitiques mondiales. Donc je pense déjà il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Et peut-être, si on n'est pas d'accord pour faire de la méthanisation dans le Val d'Oise, qu'est-ce qu'on sait faire de ces déchets? Et je pense que Paul vient de donner un très bon exemple. Moi, je pousse peut-être aussi encore plus loin. On a aussi aujourd'hui des enjeux de production de carburant synthétique pour ce qu'on appelle les ISAF, par exemple, pour l'aviation, pour remplacer le kérosène. Voilà, ça aussi, c'est peut-être des pistes aussi pour les déchets qu'on peut donner. Et derrière, évidemment... Je reviens également sur ce que vous avez dit, Paul, et totalement d'accord avec vous sur le fait de mobiliser des terres qui ne sont plus cultivées aujourd'hui, quand bien même réglementairement elles auraient encore le statut de terre agricole. Oui, oui. C'est en priorité cela qu'il faut aller chercher, et de manière générale sur les énergies décarbonées, sur l'installation des capacités de production, c'est évidemment en fait d'abord mobiliser le foncier qui est déjà artificialisé.
Oui, oui, c'est ça.
Les parkings de supermarchés, les entrepôts, enfin tout ça. Ça, c'est du foncier et des ressources qu'on dispose et qui sont absolument majeures et qui, en plus, rempliraient tous les objectifs, en tout cas en capacité d'installation dont nous avons besoin pour les énergies renouvelables aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est pas les zones naturelles et protégées qu'il faut aller grappiller.
Chercher en premier,
au contraire,
oui.
Et ça s'entendrait. Moi-même, je suis complètement opposée à cela. Mais il faut aussi qu'on arrive à faire ce travail sur quel foncier déjà artificialisé on arrive à mobiliser, que ce soit les parkings que j'ai cités ou des terres agricoles qui ne sont plus, en fait, agricoles vraiment aujourd'hui.
Bien sûr. Oui, vous, je pense que vous êtes en accord avec Célia là-dessus, Paul, certainement.
Oui, on est bien synchro. Ouais. Ouais. On est bien synchro, et c'est vrai que c'est de la grosse problématique, c'est que on s'était dit au démarrage que tous les hangars existants agricoles allaient pouvoir se transformer avec des panneaux photovoltaïques. Alors déjà, on s'est aperçu que les panneaux étaient tellement lourds qu'il fallait changer la structure.
Ah oui.
Donc c'était des investissements lourds, et on a 90% des fermes agricoles qui sont en site classé. Donc c'est là où on s'est trouvé avec une fin de non-recevoir. Et je pense que, à cause ou grâce à ça, après ça dépend de quel côté on le voit, on va plus tabler sur des zones industrielles avec des gros hangars qui vont pouvoir mettre en place ces panneaux-là et qui seront pas forcément aussi classés.
Mais donc vous êtes quand même d'accord pour dire que les agriculteurs pourraient diversifier leurs sources de revenus et rendre les exploitations plus résilientes face aux fluctuations du marché.
Bien sûr, évidemment, on a ces clés en main, ce que j'appelle cette boîte à outils en main. Après, il faut savoir s'en servir, regarder la rentabilité, et puis avoir les accès et le pouvoir de le faire, ce qui est jamais très simple non plus. Pour être en commission des sites, on passe beaucoup de dossiers, beaucoup sont refusés. Pour des jeunes agriculteurs qui veulent se lancer sur des exploitations pas si grandes que ça, ils veulent se diversifier, justement, quitte à construire un hangar en photovoltaïque ou mettre en place de la méthanisation ou beaucoup de choses comme ça, c'est très compliqué de se lancer. Hein. C'est très compliqué de se lancer.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des partenariats d'agriculteurs qui essaient de se lancer à plusieurs.
Oui, vous faites des coopératives.
Oui, c'est des associations de voisins où ils se disent on va prendre le risque à 5 ou 6, ça sera plus facile que tout seul.
Bien sûr.
Et les dossiers sont tellement lourds que tout seul, pour rien vous cacher, moi j'avais un projet il y a 7 ou 8 ans maintenant, j'étais tout seul dessus, c'est des dossiers très très lourds et qui sont compliqués quand on est tout seul puisqu'on peut pas tout savoir.
Bien sûr.
Et la méthanisation, le photovoltaïque, on a besoin d'être accompagné parce qu'en fait, sur le papier, c'est bien, mais le montage du dossier est très compliqué. Et c'est là où on manque d'accompagnement sur ces montages de dossiers pour aller au bout des choses.
Mais alors peut-être, je m'adresse à Célia, peut-être que Cleantech for France pourrait accompagner ce genre de dossier, ou pas?
C'est exactement un des sujets sur lequel on se bat. Toutes ces procédures de réglementation, les autorisations environnementales
très lourd,
qui sont d'une complexité absolument majeure.
Avec des codes, usines à gaz.
Ouais, exactement, avec des codes qui contredisent d'autres codes. Enfin, vraiment, on s'en sort plus. Et on vit exactement la même chose, nous, sur l'installation de nos premières usines de technologies propres et avec un enjeu aussi d'accès à l'énergie décarbonée. Donc, Aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de vraiment créer une vraie simplification des procédures. Donc ça, c'est le premier point, pour que, et que ce soit lisible, compréhensible, avec des délais qui soient tenus, parce que, enfin, il n'y a pas de raison qu'en France, on mette 2 à 3 fois plus de temps à installer des projets, que ce soit des usines ou des énergies décarbonées, qu'en Allemagne, alors qu'on vit dans le même régime de droit européen. Enfin, à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi comment nous, on arrive à organiser nos services publics, nos services administratifs dans les territoires. Je pense à Audréal, je pense à des GTM, enfin, en tout cas au niveau des préfectures, qui font un travail vraiment déjà considérable sur le territoire. Et comment on arrive justement pour que demain, on ait encore plus d'agents. Ça ne veut pas dire forcément embaucher plus de fonctionnaires, ça peut être reventiler des fonctionnaires sur des nouvelles fonctions, mais pour qu'on ait en fait plus d'agents qui examinent ces dossiers d'autorisation pour faire avancer les projets, parce que le retard est aussi pris à cause de ça.
C'est ça, oui. C'est vous retrouvez bien les problèmes que vous avez eus il y a 7 ou 8 ans, Paul, certainement.
Exactement.
Alors, Paul, moi, en préparant le dossier, j'ai pu voir que, puisqu'on est dans les innovations technologiques, j'ai pu voir que il y a des technologies de précision comme les drones, les capteurs, qui peuvent optimiser l'utilisation des ressources pour l'eau, l'engrais, et puis réduire justement l'empreinte carbone de l'agriculture. Ce sont des technologies que vous utilisez?
Alors, les drones, on les utilise pour l'instant. Très peu dans notre secteur pour deux raisons qui sont assez simples. C'est le coût.
Oui.
On vient de passer des années difficiles, donc forcément les investissements s'en ressentent. Par contre, depuis quelques années, nous avons mis des GPS sur nos tracteurs, sur nos machines, sur nos pulvées, qui gèrent à une précision impressionnante le débit, que ce soit pour les produits phytosanitaires, que ce soit pour les engrais, où on tombe au kilo près sur un nombre d'hectares, ce qui est assez impressionnant, avec ce qu'on appelle les coupures de tronçons. Quand on a des pièces, elles sont pas toutes rectangles ou carrées, on a des pièces en triangle, ça s'autogère. C'est-à-dire qu'on fait le tour de la parcelle, une fois qu'il a vu le tour de la parcelle, bah, il met où ça n'a pas été mis.
D'accord.
Qui, nous, manuellement, était très compliqué. Ces technologies-là arrivent au fur et à mesure.
Ça permet d'éviter des consommations inutiles.
Exactement. On consomme beaucoup moins de semences, beaucoup moins de produits, beaucoup moins d'engrais, puisqu'on est de plus en plus précis. Il faut pas oublier que nous, on a des cahiers des charges à remplir pour les engrais, pour les produits phytosanitaires, où tout doit être répertorié, on est contrôlé très souvent là-dessus. Ces outils de précision, pour nous, sont très importants. Oui. Après, c'est des investissements qui sont quand même assez lourds, qui restent rentables puisque on fait des économies de l'autre côté.
C'est ça. Quelque part, ce dont vous venez nous parler, c'est des investissements, mais il y a un retour sur investissement à terme quand même.
Exactement.
Oui, très bien.
Et puis, même pour nous, ça nous fait jamais plaisir d'en mettre trop.
Bien sûr.
On est très content de mettre moins de produits, d'utiliser vraiment juste à sa juste valeur.
De pouvoir gérer. Oui, très bien.
Exactement.
Paul, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre?
Non, je crois qu'on a fait pas mal le tour. J'accentue beaucoup sur les produits locaux, où là, justement, après le salon, on va commencer avec le chef de la restauration du département à aller voir les agriculteurs qui sont venus nous voir sur le salon pour aller voir leur production. Donc on va aller les voir un par un, prendre des échantillons, voir à l'école des chefs comment ça se passe, et j'espère qu'on arrivera à travailler avec beaucoup de producteurs du Val d'Oise.
Ah bah écoutez, c'est le but, et j'imagine que même son partant pour ces échanges.
Ah bien sûr, bah pour eux c'est très agréable, puisque ça leur fait quand même un débouché, une diversification. Pour nous, c'est quand même très agréable de pouvoir dire aux collégiens, bah voilà ce que vous mangez, c'est la parcelle dont vous passez tous les matins devant pour aller au collège. Il y a ce côté agréable, et ce que j'aimerais mettre en place avec le département, une fois qu'on a des producteurs locaux, c'est de temps en temps faire des visites des collèges chez ces producteurs, pour qu'ils se rendent compte vraiment ce que c'est, et qu'ils puissent voir où ce qu'ils mangent, d'où ça vient et comment c'est produit.
Eh bien, merci infiniment, Paul. Peut-être que Célia a une question à vous poser encore avant de vous quitter.
Alors, c'est même une petite remarque, c'est vraiment pour vous féliciter pour cette initiative de faire venir les jeunes sur les exploitations, parce que nous, on est confrontés exactement aux mêmes enjeux dans l'industrie, et c'est comment on arrive à recréer à susciter des vocations dans des carrières qui sont des carrières de passionnés, de création, de transformation de la matière. Et bravo pour ça, en tout cas.
Ben, je vous remercie. Je vous remercie.
Et moi, je vous remercie, Paul, pour ce témoignage et puis toutes vos actions aussi en faveur de votre activité. On vous souhaite que cette collaboration avec l'innovation soit fructueuse et couronnée de succès. Je vous dis à bientôt, bon. Paul.
À bientôt, Jacqueline. Encore merci pour votre accueil.
Je vous en prie. Merci. À bientôt. Au revoir. C'est l'heure d'une vraie pause. On se retrouve juste après.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
diversité. Écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Si vous nous rejoignez sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct. Ce matin, focus sur les défis environnementaux au quotidien. Pour en parler, après avoir donné la parole à Paul Dubray, adjoint à la mairie de Boissy-l'Aillerie en charge de la voirie et des appels d'offres et conseiller départemental en charge de la ruralité et des relations avec le monde agricole, qui était donc avec nous au téléphone. Et avec moi autour de ce plateau, Célia Agostini. Donc Célia, directrice de CleanTech France, hein, For France. Et Célia, donc j'avais eu le plaisir de vous accueillir lorsque vous étiez conseillère d'Agnès Pannier-Runacher, alors ministre déléguée à l'industrie. Agnès Pannier-Runacher est devenue ministre de la transition écologique et vous avez décidé de suivre une autre voie.
Oui, tout à fait. J'ai eu l'honneur de servir la ministre et notre pays pendant près de 4 ans en tant que conseillère politique et parlementaire, donc c'est-à-dire en charge de toutes les relations avec les députés, les sénateurs, les députés européens, du suivi des lois, puisqu'on avait pu porter 3 lois sur notre souveraineté énergétique en pleine crise ukrainienne. Et c'est vrai que j'ai décidé de poursuivre ma voie plutôt dans le secteur privé, parce que je pense que c'est important aussi de pas toujours rester dans le public et de voir aussi ce qui se passe l'autre côté et d'avoir un regard différent. Donc c'était une de mes motivations. Aussi parce que je dois l'avouer, j'étais quand même un petit peu fatiguée de ce rythme complètement éreintant, effréné pendant près de 4 ans. Mais ça a été des années absolument passionnantes, engagées et pour à la fin ce qui compte le plus pour moi était de servir aussi les Français dans ces fonctions.
Oui, on sait que vous êtes très très engagé, très investi de ce côté-là. Et donc aujourd'hui, vous êtes directrice de CleanTech for France. Alors, pouvez-vous nous présenter cette entité ?
Oui, et ben c'est justement, ça fait parfait transition parce que c'était important pour moi de poursuivre ces engagements que j'avais eus avec la ministre sur la souveraineté industrielle, sur la souveraineté énergétique, et de retrouver ça aujourd'hui dans mes nouvelles fonctions de directrice de CleanTech for France. Et donc CleanTech for France, c'est très simple. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de rassembler tous les innovateurs, tous les industriels, tous les investisseurs qui sont engagés dans notre souveraineté industrielle et pour la décarbonation et la transition écologique et énergétique. Et donc les technologies propres, c'est ce qu'on appelle les clean tech, c'est très simple. En fait, c'est vraiment, vous prenez tout ce que vous avez dans votre quotidien, notamment au niveau industriel, donc de l'acier, du ciment, les batteries électriques pour les voitures, les déchets, comment on les gère mieux et on les traite mieux. Et ça, je pourrais vous donner des exemples innombrables. Oui. L'industrie, par exemple, pétrochimique, comment on fait pour remplacer cet intrant pétrolier par des matériaux qui sont plutôt biosourcés, le but étant en fait de transformer toute notre production de manière décarbonée et avec aussi un enjeu quand même de compétitivité, parce que le but demain, c'est quand même aussi
il
y a des consommateurs, on est dans une économie, et donc de rester compétitif au niveau national et au niveau mondial, et vraiment de créer demain les champions, les nouveaux champions industriels. On a la chance d'avoir dans une coalition de membres qui est composée à la fois de fonds d'investissement et de clean tech industriel, donc de nouveaux industriels, d'industrie propre, d'avoir des acteurs majeurs comme Verkor, qui est en train d'ouvrir une gigafactory à Dunkerque de production de batteries électriques. C'est un des gros projets, c'est vraiment une pépite française. J'espère que demain, Verkor, ce soit le nouveau Renault. On a la chance d'avoir Néolithe, là, qui est en train d'ouvrir une usine du côté d'Angers, qui fait de la fossilisation de déchets. Donc ça, c'est très simple. C'est vous prenez tous les déchets qui sont non recyclables et non dangereux. Donc en fait, c'est des déchets qui sont enfuis et qui sont incinérés normalement.
D'accord.
Et eux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est qu'ils ont mis au point une technologie qui permet de fossiliser. Donc ils les transforment en petites pierres et Et ces petites pierres sont ensuite redonnées ou vendues au secteur du BTP qui s'en sert dans ces matériaux de construction.
D'accord.
Donc on est vraiment dans une vraie industrie circulaire, compétitive et surtout, voilà, je vous ai dit que c'était Vercors, c'est à Dunkerque, Néolithes, c'est du côté d'Angers. Je prends un autre exemple, vous avez Gravity qui est en train de lancer un projet et une usine du côté de Fos-sur-Mer, donc dans le sud, la belle région PACA, qui vise à créer à produire de l'acier décarboné. Donc au lieu que ce soit fait avec des hauts fourneaux au gaz, ça sera fait à base d'hydrogène et d'électrolyse. Et donc ça, demain, ça a vocation à faire de l'acier qui de haute qualité, qui permettra aussi de fournir nos industries comme l'industrie automobile. Et donc ça, le point commun entre tous ces projets, c'est que on ouvre des nouvelles usines au cœur des territoires et on crée des emplois aussi au cœur des
Bien
territoires.
Sûr.
Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui de cohésion sociale, en fait.
Oui. Donc, énormément de missions à remplir parce que, en fait, le spectre est très large. Tous les secteurs vous concernent.
Exactement. C'est ça la particularité des clean tech, c'est qu'à la fois, on est sur tous les secteurs, mais on a aussi cette spécificité qui est que ce sont des nouveaux acteurs industriels qui, aujourd'hui, sont dans une phase où ils ont mis au point leur technologie. Et l'enjeu, c'est maintenant de massifier cette technologie, parce que on parlait tout à l'heure de transition écologique. Aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être, enfin, en tout cas, on a fait un énorme pas. On n'est plus dans une phase où on est en train de rechercher comment on va moins consommer, comment on va mieux produire. On a mis au point la majeure partie des technologies dont nous avons besoin pour réussir cette transition écologique. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de l'industrialiser et de remplacer. D'autres ont parlé de système A et de passer au système B. Le système A qui est fossilisé, qui est produit, à base de pétrole, à base de gaz, qu'on ne maîtrise pas, dont on ne maîtrise pas la production. Et dont on est totalement dépendant en France et en Europe d'importations fonction de partenaires et je pense qu'aujourd'hui
décidés à nous fournir.
Voilà, à nous fournir et l'actualité qu'on est en train de vivre depuis quelques années avec l'Ukraine qui nous a conduit à fermer le robinet de gaz russe et aujourd'hui à nous tourner peut-être vers plus de GNL américain avec des Américains qui prennent quand même des actes assez hostiles encore aujourd'hui avec l'augmentation des droits de douane. Voilà, tout ça doit nous encourager demain à créer ce système, notre propre modèle. Je pense qu'on est vraiment dans un moment où on arrive modèle contre modèle et ce modèle où justement on va être souverain sur notre production énergétique et sur notre production industrielle.
C'est ça, on parlait de souveraineté, on est en plein dedans. Mais alors, quand vous dites massifier et puis industrialiser, c'est par rapport justement à cette fameuse compétitivité.
Exactement.
Parce que aujourd'hui, ce qui est produit coûte plus cher, malgré tout.
Alors, je pense qu'il y a deux points très intéressants dans ce que vous voulez dire. Alors d'abord, sur la massification, ça c'est vraiment un de nos combats, c'est de dire aujourd'hui, on a pris le virage de décarboner notre industrie. Et je pense que c'est un vrai virage qui est important pour notre propre compétitivité et pour sauvegarder notre outil industriel sur notre territoire. En revanche, ce qu'on dit, c'est on peut pas se contenter de simplement décarboner les sites industriels existants qui ont par ailleurs quand même subi des vagues de désindustrialisation depuis 2-3 décennies. Et aujourd'hui, tout l'enjeu de l'Europe et de la France est de faire entrer des nouveaux acteurs industriels. Typiquement, les clean tech dont je vous ai décrit les projets précédemment. Et ça, pourquoi ? Parce que c'est un enjeu de compétitivité et parce que les clean tech, au fond, elles répondent à un débat qui commence à naître, qui consiste à dire, mais en fait, demain, la transition écologique, c'est un frein au business. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ça peut pas être un frein au business. Comment vous pouvez dire que des normes qui sont pas tout à fait encore rentrées en vigueur, qu'ils ont été votées, mais qui sont pas encore tout à fait rentrées en vigueur pour la plupart, en tout cas celles qui font l'objet de débats, peut être un frein au business demain, alors même qu'on vit dans un modèle qui est fossilisé, qui a précisément conduit à cette désindustrialisation et à cette destruction d'emplois. Et pire que la destruction d'emplois, c'est qu'on a perdu de véritables compétences industrielles. Et que maintenant qu'on veut relancer la machine, on va pouvoir peut-être faire des entrepôts, des usines, mettre des machines dedans. Mais en fait, la force vive et l'humain qui est derrière et qui a cette compétence et ce savoir-faire, ça, on l'a perdu. Et c'est important, justement, et ça fera écho avec ce qu'on se disait avec Paul tout à l'heure, c'est comment on recrée des vocations chez les jeunes et comment on se dit que, voilà, maintenant, moi, je suis jeune, j'ai envie de travailler dans ce secteur parce que je vais servir mon pays, parce que je vais servir une cause dans laquelle je crois, qui est par exemple la transition écologique, qui est la compétitivité, voilà aussi le savoir-faire et l'excellence, parce qu'on a la chance de disposer de tout cela en France. Et donc, moi, je suis pas d'accord, voilà, avec ce débat, et je pense au contraire qu'il faut créer ce nouveau modèle qui n'oppose ni business, ni compétitivité et ni transition écologique. Et en cela, les clean tech sont des solutions à ce débat, parce qu'elles vont mettre en point ces technologies. Et donc, on est dans une véritable, en fait, course mondiale. La Chine a pris un tournant absolument majeur, si bien qu'en l'espace de 15-20 ans, ils ont été capables de créer des nouveaux constructeurs automobiles. Ils sont les leaders mondiaux sur les batteries électriques, par exemple, parce qu'ils possèdent près de 80% du marché mondial, ce qui est absolument majeur. Mmh. Et les États-Unis sont en train de prendre ce virage, enfin, ils prenaient ce virage jusqu'à l'arrivée de Donald Trump, et avec notamment le grand plan d'Inflation Reduction Act qu'ils avaient lancé, qui était des subventions absolument massives et des crédits d'impôt. Là, je pense que voilà, il y a un coup de frein. Et donc maintenant, nous, l'Europe, on a un coup à jouer là-dessus. On a peut-être créé déjà le cadre réglementaire et c'est très bien. Maintenant, il faut mettre ce cadre réglementaire en action. Et là, il faut des moyens financiers. Il faut aussi simplifier notre manière de voir et d'évaluer les projets d'usine, d'évaluer les projets d'usines décarbonées. Et nous aussi, enfin, je pense en tant que citoyen, on doit aussi, au moment où on prend conscience que le monde est absolument en train de changer, peut-être changer aussi notre regard sur l'industrie, sur l'énergie. Tout à l'heure, Paul disait quelque chose de très juste, qui était oui, mais en fait, les gens, ils sont d'accord avec ça, mais ils veulent pas que ce soit dans leur jardin. Oui. Donc le fameux not in my backyard, voilà, exactement, le fameux not in my backyard. Bah moi, je pense au contraire qu'il faut passer. Si on veut réussir tout ça, si demain on veut être compétitif, souverain, avec des énergies décarbonées, il faut passer du not in my backyard à in my backyard. Donc ça veut dire qu'il nous faut plus d'usines, ça veut dire qu'il nous faut plus de projets d'énergie décarbonée. Ça veut dire qu'il nous faut aussi peut-être revenir avec la production de minerais en Europe. Et là, sur ce point, on a des projets absolument formidables en France. Je pense à celui d'Imerys dans l'Allier, qui va créer la Lithium Valley. Parce que le lithium est un matériau aujourd'hui critique et stratégique, dont la Chine possède encore une fois 70% du raffinage, sans forcément posséder le minerai. Mais c'est-à-dire qu'ils ont été sécurisés l'approvisionnement des minerais partout dans le monde, notamment en Australie, au Chili. Nous, on en a aussi en France. Et donc, Imerys va faire cela avec une mine, avec des standards mondiaux les plus élevés, avec un travail de concertation locale pour aussi accepter ce nouveau type de projet. Mais à la fin, moi, je vais vous dire, quand vous venez installer un projet aussi majeur du côté de Montluçon, qui est une région qui est quand même sinistrée d'un point de vue industriel, voilà, je pense que c'est aussi d'une certaine manière redonner un avenir de développement économique, de développement territorial, social et culturel à des territoires.
Ah oui, non, c'est incroyable tout ce que vous nous dites. C'est très 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 impressionnant, je trouve. Merci Célia. Je propose qu'on fasse une pause avant d'aborder le comment financer cette industrialisation. Donc on se retrouve dans quelques instants.
Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me traîne? J'ai le Vésuve au fond des veines. Ah, elle est si belle, la douleur qui m'interpelle. Le plus beau des coups que la vie assène, le plus beau des corps de corps qui joue la scène. Je suis tant étourdi, je tiens à peine, mais ses désirs me retiennent. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois que j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel.
pas, ce n'est pas un game. Là tu t'engages. Quand tu m'aimes, faudra me préserver jusqu'au souffle dernier. Je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Oui, je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel.
T'es belle, rebelle, je suis immortel. C'est toi qui décèles tout ce que ma peau recèle. J'ai peur de toi comme d'une sublime attraction. Une seconde avant l'action.
Si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu sèmes une graine, une fleur. Tu devras me garder abîmée ou belle dans ce carrousel.
Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Merci d'être resté sur notre antenne IDFM Radio. C'est l'économie en direct et ce matin, nous parlons de défis environnementaux au quotidien. Après avoir interviewé Paul Dubray, conseiller départemental en charge de la ruralité et des relations avec le monde agricole, qui est avec nous au téléphone, je reçois Célia Agostini, directrice de Cleantech for France. Alors, Célia, vous nous avez expliqué tout l'intérêt d'une clean tech, hein, et vous nous avez convaincu, je peux dire. En tout cas, moi, je suis convaincue. Maintenant, on parle d'industrialisation de ces technologies propres. Comment vont-elles être financées?
Alors, ça, c'est tout l'enjeu majeur. On attendait beaucoup du fameux Clean Industrial Deal. Alors le Clean Industrial Deal, qu'est-ce que c'est? C'est le plan européen qui vise à financer les industries propres.
Oui.
Donc aussi bien la décarbonation des sites industriels existants que maintenant aussi, et ça c'est une vraie victoire parce qu'on avait vraiment bataillé pour ça, l'industrialisation des clean tech, donc de ces technologies propres que j'ai décrites tout à l'heure. Je le rappelle pour faire simple pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est par exemple, vous prenez de l'acier, il faut le décarboner, vous prenez du ciment, il faut le décarboner, tout ce qui est pétrochimie, il faut le décarboner avec des matériaux biosourcés, comment on gère nos déchets, etc. Et donc, ce Clean Industrial Deal, je pense que déjà, il acte quelque chose de majeur.
C'est la présidente de la Commission européenne
exactement,
qui l'a présenté.
C'est Ursula von der Leyen, avec le vice-président français à l'industrie, Stéphane Séjourné. Le but, aujourd'hui, c'est vraiment, déjà, c'était d'acter peut-être le diagnostic. Enfin, c'est peut-être un peu simple, mais
oui.
Déjà qu'on se mette tous d'accord sur on est dans une situation très compliquée d'un point de vue industriel. On le voit en France, les annonces qui se sont multipliées de fermeture de sites. On a des filières qui sont absolument dans des difficultés majeures. Je pense à la filière de l'automobile, je pense à la filière de la chimie. Et quand je dis la filière, c'est aussi bien les donneurs d'ordre, mais il y a toute la chaîne de sous-traitants qui sont derrière.
Qui sont
des PME
qui
industrielles.
Sont les premiers,
exactement,
touchés.
Qui sont le cœur battant économique dynamiques de nos territoires et aussi qui détiennent ce savoir-faire d'exception qu'il faut absolument préserver. Donc ça, c'est un premier point. Il y avait un gros pilier sur comment on décarbone les sites industriels et les filières existantes. Et maintenant, il y a un deuxième pilier sur lequel, comme j'ai dit, on s'était battu. On avait notamment envoyé une lettre ouverte à la présidente pour justement dire demain, si vous voulez y arriver, il faut créer un choc de demande pour les industries propres européennes. Et donc, cette lettre ouverte a été co-signée, c'était inédit, par plus de 100 investisseurs et innovateurs cleantech dans toute l'Europe, qui a été envoyée à la présidente. Moi, je l'ai envoyée à chacun de nos ministres, à l'Élysée, à Matignon, et on sera reçu notamment dans les... On vient d'être reçu d'ailleurs par le conseiller industrie du président de la République. On a plusieurs rendez-vous aussi qui sont organisés avec les ministres et les administrations qui sont compétentes sur ces sujets. Ce qui montre aussi l'écoute et l'envie d'avancer ensemble et comment on travaille à trouver les meilleurs dispositifs. Et donc, comment on finance ces clean tech demain et l'industrialisation de ces technologies propres? Nous, je vais être très sincère, et je pense que c'est peut-être des choses un peu à rebours de ce qui a prévalu jusqu'ici, c'est je suis pas en train de demander un plan de milliards à l'État. Je ne souhaite pas que cette filière soit perfusée à l'argent public. Mon enjeu demain, c'est comment on finance ces usines et ensuite comment ce que produisent ces usines soit vendu sur le marché.
Ouais.
Et donc à partir de là, quel mécanisme je mets en place, ces mécanismes qui sont aussi bien publics que privés, pour favoriser cette demande d'industrie propre européenne et française. Et là, le Clean Industrial Deal, je dois dire, il acte quelque chose qui est majeur et qui était un tabou, voire un gros mot jusqu'ici, c'est la préférence européenne.
Ah oui.
Enfin, on parle de préférence européenne. Enfin, on va peut-être sortir de cette naïveté qui consistait à dire notre marché, c'est open bar et tout le monde vient. Et en même temps, j'impose des réglementations bien plus lourdes à mes propres acteurs.
C'est ce que nous disait Paul.
Exactement.
Par rapport
qui font des investissements majeurs pour mettre à niveau leur outil productif, leur outil industriel. Et en plus, derrière, c'est eux qui se retrouvent pénalisés face à des acteurs étrangers, typiquement chinois, qui vont venir déverser sur notre marché leurs surcapacités, qui sont subventionnées chez elles, et en plus à des prix absolument, qui sont pas du tout le prix, parce que c'est pas possible de produire et de vendre à ce prix-là derrière, mais qui en fait vont faire de la prédation face à nos industriels, qui ne peuvent pas rivaliser face à ça, et c'est normal. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas possible. Donc, je pense que ça, c'est déjà un point absolument majeur. Et moi, j'ai même envie d'aller plus loin sur cette préférence européenne. Nous, ce qu'on dit maintenant aujourd'hui, c'est très bien, c'est une très très bonne première étape, mais on peut pas s'imiter simplement à préférence européenne dans les marchés publics ou dans les achats publics. Il faut aussi appliquer cette préférence européenne dans les achats
privés.
Exactement. Typiquement, quand on va donner une subvention massive à un industriel, comme dans le plan des 50 sites industriels à décarboner qu'a lancé la France, et c'est très bien, mais maintenant, il faut utiliser ces leviers-là, qui sont des leviers publics de subvention, pour dire à ces industriels qui reçoivent la subvention, eh bien, on vous donne la subvention. En revanche, le contrat, c'est que X% de la subvention, peut-être 40%, 60%, enfin un taux à définir, soit dirigé vers des solutions européennes et françaises lorsqu'elles existent.
Bien sûr.
Et c'est comme ça que vous allez en fait tirer la demande à moins de frais, et c'est de bien s'assurer que chaque euro d'argent public dépensé serve toute notre économie et derrière serve tous nos emplois, parce que c'est ça derrière qui compte. Et ça me fait peut-être la passerelle avec ce que vous aviez dit sur le coût tout à l'heure, parce que les détracteurs face à ça, ils vont dire oui, mais en fait produire en Europe ça coûte plus cher. Mais ça dépend ce que vous mettez dans le coût. Si vous regardez à la sortie du pot d'échappement,
si on fait l'addition
exactement, du coût. Oui, effectivement, on sera peut-être un petit peu moins cher. Enfin, un petit peu plus cher, pardon, par rapport à des produits étrangers. Quand vous prenez de l'acier décarboné européen et que vous le mettez dans une voiture, à la fin, la différence de prix, c'est à peine 200 euros. C'est pas absolument game changer, mais je suis d'accord que c'est un coût en plus pour le consommateur et pour les Français qui ont déjà des sujets de pouvoir d'achat. Et donc ça, il faut absolument l'adresser. Mais quand vous prenez le coût total, en fait, c'est-à-dire le fait d'avoir une usine en Europe que vous avez installée en France, les emplois en France. Donc, qui dit emploi en France dit salaire, dit impôts, dit charges pour nos retraites, pour notre assurance sociale, et ensuite pour exactement la consommation. Donc, en fait, quand vous prenez tout ce coût-là, déjà, en fait, vous dites, en fait, j'ai récupéré derrière bien plus que la différence de coût qu'il y a sur la facture. Donc ça, déjà, je pense qu'il faut qu'on change notre regard et qu'on arrive avec des approches beaucoup plus globales sur comment...
Changer de paradigme.
Exactement. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a un autre coût, c'est celui de notre souveraineté. Enfin, quand on regarde les dernières crises qu'on a vécues et en pleine crise sur la défense qu'on est aujourd'hui, je prends l'exemple du Covid. Si on n'avait pas de masques et autres, si la France se réveille peut-être le lendemain du 16 mars 2020 en se rendant compte qu'elle a du mal à produire du paracétamol, c'est-à-dire du Doliprane, c'est peut-être aussi parce que on a abandonné notre souveraineté industrielle.
On s'est laissé un peu aller dans ce domaine.
Là, je reviens sur l'énergie. Quand on se réveille avec la guerre en Ukraine, on décide de fermer le gaz russe. Là, c'est pareil. C'est un sujet industriel. Là, aujourd'hui, on est face à Trump qui veut plus aider l'Ukraine. Et donc, l'Europe qui est en train de se rendre compte qu'elle va devoir prendre en charge sa propre défense. Et c'est une très bonne chose parce que c'est une position française depuis le général de Gaulle avec laquelle je suis totalement en accord. Et où on aurait... Enfin, voilà. Maintenant, on n'est plus les seuls à dire qu'on ne doit plus abandonner notre défense. Mais ça pose un sujet industriel aussi. Donc, à la fin, l'industrie, c'est toujours le cœur du problème.
Complètement.
Et donc, c'est ça aussi ce coût de la souveraineté qu'on doit aussi prendre en compte, le fait de ne pas pouvoir produire ce dont on a besoin pour des intérêts supérieurs et de la nation et l'intérêt général.
Alors, donc, on comprend que ces partenariats publics-privés sont vraiment un critère de réussite dans ce Clean Industrial Deal. Est-ce que il existe déjà des exemples de collaboration dans ce domaine?
Oui, par exemple, je reprends l'exemple de Vercor.
Oui.
Vercor, ils ont un partenariat industriel avec Renault.
D'accord.
Donc, qui va pouvoir acheter leur batterie électrique pour leur propre véhicule. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, ce modèle qu'on essaye de promouvoir, c'est que les industriels, on a de la chance d'avoir des champions mondiaux en France particulièrement. Ils ont aussi, je pense, ce rôle d'aiguilleur et de partager leur expérience avec des nouveaux industriels qui arrivent sur le marché et qui vont, d'une certaine manière, apporter des innovations. Et ces innovations, faire de la R&D dans un grand groupe, c'est pas forcément faire de l'innovation. Et donc, ils ont tout intérêt aussi, ces grands groupes, à faire ce type de partenariat avec ces nouveaux acteurs clean tech d'industrie propre, parce que justement, ça va leur permettre d'externaliser leur innovation avec des acteurs industriels qui vont peut-être leur faire des choses quasiment sur mesure par rapport à leurs besoins. Donc on a tout intérêt à développer ça, et c'est vraiment ce sur quoi aussi on essaye de travailler. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans un conflit de les petits contre les grands. Je suis absolument convaincue, et de toute façon l'histoire industrielle nous a montré que lorsque les industries de base s'en vont, c'est toute la chaîne derrière qui s'en va. Donc en fait, on a besoin d'industries de base, d'acier, de ciment, automobile.
C'est ça, c'est-à-dire
absolument.
Que les industriels traditionnels, au fond, vous allez les encourager à passer le cap de ces innovations.
Exactement.
Mais est-ce que ça va pas être compliqué, ça?
Voilà, c'est un dialogue qu'on doit avoir.
Oui.
Je pense justement, c'est pour ça qu'on demande cette mobilisation d'aller plus loin sur la préférence européenne, qui est appliquée aussi par des acteurs industriels qui recevraient par exemple des subventions. De même, l'enjeu, un autre enjeu aujourd'hui, c'est de pas tout faire avec de l'argent public, et c'est comment je vais mobiliser tout le capital privé, c'est-à-dire 38 000 milliards d'euros sur le marché européen, pour aller financer aussi ces clean tech et ces premières usines. Pourquoi on a du mal aujourd'hui? C'est parce que ces investissements sont trop risqués.
Oui.
Vous avez mis au point votre technologie. Maintenant, vous voulez l'industrialiser, c'est-à-dire vous voulez ouvrir une usine, et donc votre technologie, il va falloir la massifier. Et donc c'est les premières séries. Il faut maîtriser la technologie en grand nombre, ce qui est pas toujours, ce qui est compliqué. Et donc c'est les premières machines, c'est les premiers emplois. Donc là, c'est un autre phase de
un
développement
défi,
qui est extrêmement risqué. Et donc et là où les investisseurs ont du mal à venir. Donc moi, j'ai la chance dans notre coalition chez Cleantech for France d'avoir des investisseurs comme Demeter, comme Mirova. Il y a des startups studios comme Marble, comme il y a Jolt Capital. Enfin voilà, il y a Aster, enfin Accéléo Capital d'ailleurs, qui vient d'ouvrir un fonds spécialement pour financer l'industrialisation, cette phase-là extrêmement risquée. J'ai aussi
c'est-à-dire que Cleantech,
Supernova Invest.
Cleantech France, soutient vraiment le développement de l'adoption de ces technologies.
Exactement. On fait aussi bien les cleantech industriels, donc les industriels en même qui vont porter le projet. J'ai cité Neolith, j'ai cité Afiren. Enfin, il y a Zee Energy aussi qui s'occupe de faire ça en matière d'énergie décarbonée, pour faire écho à notre conversation de tout à l'heure. Mais on a aussi dans notre coalition les investisseurs qui rendent ça possible. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aider aussi ces investisseurs, non pas forcément en leur donnant de l'argent, mais en ce qu'on appelant des mécanismes qui vont réduire le risque.
Oui.
Et c'est-à-dire que, par exemple, dans un projet d'ouverture d'usine qui est extrêmement risqué, eh bien, vous allez être moins exposé au risque, parce que derrière, vous allez avoir quelque chose comme une garantie publique de l'État qui va permettre de garantir une partie du projet, qui fait que si le projet demain ne marche pas, eh bien, vous ne perdez pas toute votre mise.
Enfin,
je schématise beaucoup pour vraiment la compréhension, parce que c'est des mécanismes qui sont extrêmement compliqués.
Oui, oui.
Mais en fait, demain,
mais
nous,
c'est
ce qu'on
une belle
est en
collaboration
exactement
public.
En fait, nous, ce qu'on est en train de dire au gouvernement et à tous nos ministres qui sont compétents sur nos sujets, c'est plutôt que faire de la subvention qui coûte très cher au budget de l'État, et je pense qu'on est tous conscients de la situation du budget de l'État, parce qu'en fait, la subvention, vous allez décaisser tout de suite l'argent de l'État. Faites plutôt une garantie publique, donc vous décaissez pas d'argent. Par contre, vous porter garant si le projet se fait pas à X% du projet. Mais si le projet il se fait, ça vous coûte zéro. Et en plus, demain, vous avez votre projet clé en main, en fait, avec des emplois et autres. Et tout ça parce que vous avez, grâce à la garantie publique, réussi à mobiliser les investisseurs privés qui, parce que eux étaient moins exposés au risque, sont dit, bon, bah là, c'est bon, je mets mes billes dedans, dans des projets qui sont risqués, mais en plus, par rapport aux autres projets, parce que l'industrie, c'est quand même moins rentable que d'autres secteurs.
Oui. Mais enfin, au départ, peut-être, mais ça dépend après.
Oui,
oui.
Même. C'est quand même un peu, on va pas se mentir, c'est quand même un peu moins rentable par rapport à d'autres secteurs. Je pense à la tech ou autres, mais qui sont essentiels, on l'a vu, pour la vie de la nation. Alors, qui sont moins risqués et surtout sont plus longs avant d'avoir la rentabilité. Parce qu'on est sur des cycles de 5 à 7 ans, par rapport à d'autres qui sont des cycles de 3 à 4 ans. Voilà. Donc ça, c'est par exemple des exemples, en tout cas, qu'on essaie de promouvoir pour dire maintenant l'enjeu, c'est comment on mobilise nos capitaux privés. Parce que à la fin, en fait, vous avez des clean tech où en Europe, en France, on est extrêmement fort pour financer l'innovation. Et vraiment, on est vraiment les leaders mondiaux sur ce point-là. Mais dès que vous arrivez dans la phase d'industrialisation, comme on n'a pas les outils publics et privés en face pour accompagner cette phase de développement, eh bien en fait vous vous retrouvez avec des entreprises innovantes qui vont se financer aux États-Unis.
Donc
en fait ça n'a aucun sens même pour l'utilisation de l'argent public de démarrer le projet à A et que le Z il aille se faire aux États-Unis.
Et alors, en vous écoutant, Célia Agostini, je pensais, avez-vous des partenariats avec les universités ?
Alors, pas encore, pas honnêtement.
Parce que je pense notamment à l'université de Cergy.
J'ai eu des discussions
avec le PUI.
Complètement. C'est avec le PUI que j'ai eu des discussions. Voilà, c'est un de notre travail aussi, c'est peut-être maintenant de diversifier nos partenariats. Et pourquoi ? Parce que c'est aussi comment on suscite des vocations. Comment on suscite des vocations sur les étudiants de demain qui vont aussi bien créer ces cleantech, mais aussi travailler dans ces cleantech et à leur développement.
Bien sûr.
Et voilà, moi, j'ai envie de transformer cette image qu'on a de l'industrie. C'est plus Germinal, c'est pas vrai. On est sur une industrie, voilà, maintenant qui est 4.0, qui est d'une maîtrise technologique absolument incroyable. Et donc, c'est des super jobs qu'il faut prendre. Et en plus, c'est plutôt bien payé.
Oui, c'est ça. Il faut. C'est pas désagréable. Et donc, vous comment voyez-vous l'avenir de l'industrie en France et en Europe, justement sous l'impulsion du Clean Industrial Deal?
Alors, je pense qu'on est vraiment à un moment,
un carrefour
majeur. Enfin, là, ça y est, c'est soit c'est le décrochage, soit c'est le sursaut. Et le clean shoulder, je pense qu'il envoie un signal très fort. Je pense que c'est une très bonne base de discussion. Maintenant, il va vraiment falloir accélérer parce que enfin, ça sera pas suffisant. On va pas se mentir, mais c'est une très bonne première étape où on fait tomber des tabous, comme j'ai dit, sur la préférence européenne. On essaye de mettre en place des mécanismes pour dérisquer les investisseurs. Donc typiquement, il y a des garanties publiques européennes qui ont été annoncées et ça, c'est très bien. Maintenant, voilà, je pense que c'est pas encore à la hauteur de ce qu'a fait la Chine, c'est pas encore à la hauteur de ce qu'ont fait les Américains. Voilà, je pense que c'est une première étape, je le prends comme ça. Et c'est aussi, je pense, la volonté maintenant de créer un modèle qui concilie à la fois compétitivité pour nos entreprises, nos industriels et la transition écologique. Donc voilà, moi j'ai envie de prendre du côté du verre à moitié plein. Et de remplir la moitié qui reste à remplir plutôt que de tout de suite regarder le verre à moitié vide et de pas, voilà, je pense pas que ça fera avancer les choses, surtout dans la situation dans laquelle on est.
Et quels seraient les indicateurs de succès pour évaluer les projets réalisés?
Le nombre d'ouvertures d'usines, comment on arrive aussi à avoir des stratégies de filières où on arrive à créer des chaînes de valeur. C'est-à-dire, bah, par exemple, je prends l'exemple malheureux du photovoltaïque, parce qu'on avait une industrie du photovoltaïque auparavant en Europe. Et ça montre aussi qu'il faut arrêter peut-être d'avoir ces raisonnements de dire parce que je veux que le consommateur paye des produits moins chers, je fais rentrer des produits étrangers parce que demain en fait le consommateur c'est la même personne,
le consommateur dans la bergerie.
Mais oui, enfin le consommateur et le travailleur c'est la même personne en fait. Donc si le travailleur il a perdu son job parce que on a fermé son usine de panneaux photovoltaïques européennes pour faire rentrer des panneaux chinois, en fait il va pas consommer quoi. Donc ça je pense que déjà faut vraiment qu'on arrive à enfoncer encore plus la porte sur cette thématique là. Mais je reprends cet exemple-là. Aujourd'hui, on a une filière européenne sur le panneau photovoltaïque. On sait faire du silicium. On maîtrise la techno. Et donc, l'enjeu, c'est est-ce qu'on arrive à redémarrer une filière qui est quand même très sinistrée face à des surcapacités chinoises qui sont absolument majeures. Mais moi, j'ai envie qu'on pousse en ce sens-là. Oui. De même sur les automobiles. Là, par contre, on veut créer des batteries électriques. On n'a pas de filière existante, c'est-à-dire qu'on va commencer par créer la batterie en elle-même, donc c'est le sens des projets de Gigafactory et de la vallée batterie qu'on appelle dans le nord de la France, puisqu'il n'y a pas que Vercors, mais il y a aussi ACC, il y a Envision,
qui est très sain d'ailleurs, qu'il y ait plusieurs entreprises, parce que ça crée une innovation.
Mais je pense que demain, quand on aura en fait nos propres acteurs qui se feront concurrence, c'est qu'on aura réussi.
Oui, complètement.
Donc là, pour le moment, faut se serrer les coudes. Mais demain, le but, c'est ça, c'est qu'on se fasse concurrence et face aux Chinois et aux Américains. Et là, on n'a pas de filière, c'est-à-dire qu'on n'a pas de filière de recyclage des batteries encore. Ça fait que les batteries elles repartent en Chine pour se faire recycler. Et là aussi, c'est un enjeu majeur. En Europe, quand vous produisez pas ces matériaux critiques qui sont essentielles pour la production des batteries, typiquement le lithium, le cobalt, les terres rares, etc. Garder ces batteries et avoir une filière de recyclage en Europe permet d'extraire tous ces matériaux
et
de les laisser dans notre
économie circulaire. Exactement. Toujours, bien sûr.
Donc ça, c'est aussi cette stratégie de filière qu'on doit créer à la fois dès en amont, c'est-à-dire comment je maîtrise mes matériaux critiques. Au milieu, comment je produis et j'ai mes sous-traitants pour produire mes batteries de manière made in Europe, made in France. Et ensuite, comment derrière j'arrive à conserver tous ces matériaux critiques essentiels en aval avec ces matériaux.
C'est très intelligent.
Voilà. Ça, je pense, c'est aussi des approches qu'on essaye de promouvoir.
En tout cas,
il faut bien démarrer quelque part et ça va prendre du temps. De toute façon, je vais vous dire, on a mis 40 ans à désindustrialiser la France et l'Europe. On va mettre tout autant de temps à le refaire. Mais il faut se battre, ça va être dur, on va avoir des échecs, et on a des échecs.
Il faut y croire.
Mais on a aussi des réussites formidables, et je pense que les clean tech, elles incarnent aussi ces réussites-là.
Alors, il y a eu la publication de vos chiffres, d'investissement 2024. Vous voulez nous en dire quelques mots?
Oui. Alors, ce qu'on observe sur les chiffres, c'est que en 2023, on avait eu une année record, on avait eu plus de 3 milliards d'investissements dans le secteur des clean tech en France, qui est absolument majeur. Donc, je parle en capital risque, le démarrage, l'amorçage. Là, cette année, on est tombé à 2 milliards, donc on a perdu 1,5 milliard en une année. Donc, toute façon, les raisons, elles sont connues. Hein. Oui. Inflation, le taux d'intérêt, tensions géopolitiques, le coût de l'énergie. Parce que aussi, ça aussi, oui. Tant qu'on n'aura pas réussi à faire baisser le coût de l'énergie, aussi bien pour les consommateurs que pour les industriels, moi je ne sais pas comment on va réindustrialiser quand vous avez un coût de l'énergie en Europe qui est 2 à 3 fois plus cher qu'en Chine et aux États-Unis. Enfin, c'est clair. À un moment, c'est pas possible. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir
trouver une solution.
La Commission a proposé des premières pistes. Je pense qu'il va, voilà, c'est pareil, c'est une première étape, mais il va falloir aller beaucoup plus loin sur le prix en lui-même. Et donc sur les chiffres, voilà, tout ce contexte a conduit à une baisse d'investissement parce que les investisseurs, justement, ils savent, enfin voilà, c'est pas clair. On est en train de remettre en cause des réglementations qui avaient été prises. Enfin bon, voilà, le contexte n'est pas très transparent et on n'arrive pas à prévoir ce qui va se passer après. Donc on stoppe nos investissements. En revanche, il y a une bonne nouvelle dans cette année, c'est que l'investissement en dette, c'est-à-dire quand vous passez dans une phase de développement, a largement augmenté. D'accord. Avec des deals records. On avait eu, par exemple, l'année dernière, Vercors qui avait levé plus de 850 millions d'euros, donc absolument massif. Celui-là a augmenté. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les structures, en tout cas la plupart des structures qui ont été financées dans cette première partie en fonds propres avec le capital investissement, capital risque, est arrivé à une certaine maturité et aujourd'hui passe plutôt sur des investissements en dette et donc ça veut dire qu'ils poursuivent leur développement.
C'est ça, et ça c'est qu'ils peuvent investissent eux-mêmes et donc
voilà exactement. Ça. Donc ça veut dire qu'on a réussi en fait à faire monter des acteurs qui poursuivent leur phase de développement et là aujourd'hui c'est tout le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est qu'on arrive dans cette phase d'industrialisation.
D'accord.
Et maintenant c'est qu'est-ce qu'on est capable de mettre en face de cette phase parce que effectivement là, on n'est pas assez outillé pour accompagner ça, et le risque, justement, c'est qu'on perde des pépites en route.
Bien sûr. Ouais, ouais. Non, mais donc là, vous êtes plutôt optimiste pour cette année 2025.
Alors, je suis de nature optimiste, oui. Mais ça veut pas dire naïve. Non, je suis optimiste parce que je vois des choses qui sont en train de se faire. En revanche, j'ai pleinement conscience des difficultés, mais j'ai envie de voir le positif, ce qui est sorti dans le Clean Industrial Deal. Même il y en a qui diront les montants c'est pas assez, c'est pas assez, ok. Mais dans le changement de paradigme, dans le changement de narratif, c'est des choses qui à peine 6 mois étaient inespérées.
D'accord.
Et voilà. Donc moi j'ai envie de me dire il y a 6 mois on n'aurait jamais pensé que ça sorte. Donc là c'est sorti. Maintenant c'est quoi nos prochaines étapes et comment on arrive à vraiment en faire un levier et encore plus défendre les technologies propres et leur industrialisation en France.
Alors ces nouvelles entreprises, enfin ces industries puis ces start-up, est-ce que c'est vous qui allez les chercher ou c'est elles qui viennent à vous? Comment ça se passe?
Les deux. Ouais, les deux. C'est vrai que alors, pour CleanTech for France, on est une structure très jeune. Hein. On a été créé il y a à peine 2 ans et demi, donc on essaye de faire monter, de développer des stratégies aussi bien pour se faire connaître auprès des gouvernements, pour nous élaborer des mesures, pour nous aussi structurer une filière et un écosystème qui est en train de se créer. Donc on fait ça vraiment sur le tas en parfaite collaboration avec tous les membres que j'ai cités tout à l'heure. Et donc je pense que il y a une dynamique qui se crée et ça donne envie à certains de nous rejoindre et moi en même temps je prends contact avec les uns et les autres. Le but étant demain qu'on ait un écosystème solide qui touche beaucoup de secteurs, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tous les secteurs, les clean tech, mais qui arrivent en fait à vraiment défendre ces spécificités de nouveaux acteurs industriels. Je reprends un exemple, mais par exemple, quand vous regardez les appels à projets du gouvernement sur la décarbonation, les appels à projets, ils visent de décarboner le processus industriel. Oui. Donc pour simplifier, en gros, vous produisez au gaz et demain, vous électrifiez votre production. Bon, peu importe ce que vous produisez. Moi, j'ai des acteurs clean tech qui rentrent pas dedans. Pourquoi? Parce que eux, ils décarbonent pas le processus, ils décarbonent le produit. C'est-à-dire que le ciment, il est carboné. Et eux, ce qu'ils disent, moi, le ciment, je vais pas le produire à l'électricité, je décarbone le ciment en lui-même. Et donc ça ne rentre pas dans les appels à projets.
Oui, je comprends. Ouais.
Et donc voilà, c'est ça aussi ce travail.
Oui, il y a toute une
c'est ça notre rôle aussi,
une pédagogie à trouver pour.
C'est ça notre rôle, c'est d'identifier dans des dispositifs par exemple publics, qu'est-ce qui fait que on a laissé des trous dans la raquette et comment on travaille ensuite avec les pouvoirs publics pour corriger cela.
Oui, d'où ce que vous disiez au début, il faut qu'il y ait des agents qui soient qui rentrent dans ces spécialisations et qui soient complètement
un travail comme vous le dites Jacqueline de sensibilisation pour dire je donne un exemple très simple, c'est vous prenez les 20 dernières années, vous regardez la Chine, ils ont réussi à créer je ne sais pas combien d'acteurs industriels mais majeurs, aussi bien des constructeurs automobiles qu'on n'arrête pas de dire l'automobile c'est un secteur hyper concurrentiel mondial, déjà nos constructeurs ils y arrivent pas et tout, eux ils arrivent à en faire rentrer des nouveaux, ils arrivent à maîtriser 80% du marché mondial sur les batteries électriques. Vous regardez les États-Unis il y a 20 ans, ces 20 dernières années, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont sorti les géants du numérique. Ils ont sorti Tesla, ils ont sorti SpaceX. Et quand vous regardez l'Europe sur ces 20 dernières années, moi je ne sais pas quel champion on a sorti. Et donc c'est ça aussi qu'on essaye de leur dire, c'est mettez-vous dans la logique maintenant qu'il va falloir créer et faire sortir des champions. Et donc dans, le design de vos instruments publics, vous ne pouvez pas penser que à cadre et acteur existant. Vous devez aussi penser à demain comment mon appel à projet il permet aussi de faire rentrer des nouveaux acteurs qui vont créer des projets parce que j'ai bien fait dire les conditions de cet appel à projet.
C'est ça, oui.
Donc c'est une vraie sensibilisation, c'est un changement, voilà, comme on disait tout à l'heure, aussi d'approche de l'administration, de culture administrative qu'on essaye d'insuffler.
C'est ça, c'est le mot exact, c'est la culture, culture qui est pratiquée depuis des décennies et qu'il faut arriver à modifier.
Et c'est pareil dans la préférence européenne et française. Là, c'est des révolutions, ce qu'on vit, c'est des vraies révolutions administratives. Mais faut les accompagner. Faut les pousser et il faut challenger, mais dans une relation, que j'ai envie qu'elle soit constructive, qu'elle soit respectueuse, parce que j'ai été aussi de l'autre côté. J'y reviens auprès de la ministre et je sais, c'est incroyablement difficile les choix que vous avez à faire, les arbitrages que vous avez à prendre, les problèmes face auxquels vous êtes confrontés au quotidien. C'est dur. J'ai toujours un profond respect et même admiration pour ces gens qui ont envie de s'engager dans le public, qui ont envie aussi de défendre l'intérêt général.
Bien sûr. Parce que
c'est de ça qu'on parle à la fin. Et moi je suis pas là pour taper sur ça, au contraire, j'ai envie d'encourager et d'aider. Je l'ai fait en étant du côté public, maintenant j'ai envie de le faire en étant du côté du privé.
Et peut-être que justement votre expérience du public aide un petit peu à la manœuvre pour dans vos relations entre les uns et les autres.
Oui, parce que j'ai eu le temps d'apprendre aussi comment fonctionne l'État, comment on prend les décisions et ça permet quand
c'est
même
précieux.
de comprendre qu'en face on a une machine qui a ses propres règles.
Oui, ça vous rend en même temps plus tolérante par rapport à certaines décisions.
J'essaie d'être compréhensive, à la fin, ce qui compte c'est que ça avance et qu'on trouve les bons leviers. Je trouve que pour une jeune structure comme CleanTech for France, on est absolument, je suis reçue par beaucoup d'administrations, je l'ai redit tout à l'heure, on a rendez-vous avec le conseiller industrie du président de la République, on est en contact avec le ministre de l'industrie, le ministre de l'économie, donc je pense qu'il y a une écoute en tout cas qui existe. Il y a une considération, nous aussi on essaye de le rendre en proposant des dispositifs, en travaillant aussi sur ce qui existe et comment on peut améliorer. Je pense que c'est un travail qui est collectif au moment où on doit serrer les coudes.
Oui, et puis c'est vraiment l'avenir de la France et de l'Europe qui est en jeu, donc on ne peut qu'avoir une écoute positive.
Complètement.
Merci infiniment Célia pour votre expertise et puis votre engagement en faveur des technologies propres et de l'innovation durable. Merci de soutenir les entreprises et les start-up qui œuvrent dans ce sens. Je pense qu'on faudra qu'on vous reveniez parce que l'aventure n'est pas terminée et vous nous tiendrez au courant de l'événement, enfin
de
la suite de Cleantech for France. Mais voilà, on vous souhaite beaucoup de succès.
Et en tout cas, merci beaucoup, Jacqueline, pour votre invitation et pour le travail qui est fait ici de voilà mettre aussi des forces vives en avant du territoire. C'est important parce que voilà ça démarre au plus près de nous en changement-là. On a toujours l'impression que c'est grand et que c'est loin et haute. Et non, en fait, je pense qu'avec votre émission, vous montrez que ça se passe juste à côté de nous.
Ça permet de sensibiliser.
Exactement, et avec des invitations comme Paul tout à l'heure, c'était vraiment super. Merci beaucoup en tout cas.
Mais merci à vous. Merci. Eh bien, écoutez, l'économie en direct. Comme d'habitude, j'ai plusieurs invités. Je demande un mot de conclusion, mais là, je vais pas vous nous l'avez donné. Donc, merci encore de votre venue, Célia. Merci à Paul qui a pu prendre sur son temps aussi pour nous appeler. Merci Francky pour la technique. Merci à tous nos auditrices, auditeurs de nous avoir suivis. Cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son intégralité en replay sur le site de la radio idfm98.fr. Et moi, je vous retrouve vendredi avec de nouveaux invités. D'ici là, belle journée et bonne semaine.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
in 94. Montel made no money and life show was slow. And all they said was 6'8 he stood. And people thought the music that he made was good. The little DJ and Paul was his name. He came up to money, this is what he said. You and OG are gonna make some cash. Sell a million records and we're making the dash. Oh, I'm buzzing the club.
This is how we do it.
South Central dancing like nobody does.
This is how we do it.
To all my neighbors, you got much favor.
This is how we do it.
I'll never come whack on an old school time.
This is how we do it.
I'm kind of buzzed, so
j'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Le déjeuner en paix. Journal du matin, les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. En déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix.
Écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, à retrouver tous les mardis, donc de 18h à 18h30. L'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.